C'est avec Christine Barr que nous allons conclure ce 9e numéro de Margot Guette consacré aujourd'hui aux droits des femmes. Christine Barr est une historienne française spécialiste de l'histoire des femmes, du genre, du féminisme et de l'antiféminisme. On lui doit notamment l'Association des archives du féminisme et Muséa, musée virtuel d'histoire des femmes et du genre, édité par l'Université d'Angers, université dans laquelle elle enseigne. Je pourrais continuer longtemps à dérouler son CV, je vais donc m'arrêter ici et vous laisser l'écouter. Nous parlons ensemble des droits des femmes à travers un prisme historique. Merci beaucoup Christine Barr d'avoir accepté mon invitation. Alors pour essayer de poser des limites à cette vaste thématique, peut-on dater le début de cette lutte pour les droits des femmes à la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de l'Olympe de Gouges de 1791 sans exclure trop de militantes ayant œuvré en ce sens avant elle?
Avant, déjà, le vocabulaire de militante ne conviendrait peut-être pas, mais dans les siècles précédents, bien sûr, tout ne commence pas brusquement avec la Révolution de 1789. D'abord, c'est une aspiration à l'égalité, à la liberté, à l'indépendance qui dépasse les frontières, qui s'exerce dans toutes sortes de milieux, donc dans les salons du XVIIIe siècle, par exemple, l'aspiration au savoir, l'aspiration à la culture, la querelle, ce qu'on a appelé la querelle littéraire des femmes. Enfin voilà, il y a des choses qui se passent avant 1789. Mais ce que change la Révolution, c'est la citoyenneté, la notion de droit et la valorisation à la fois de la liberté et de l'égalité.
Cette notion de citoyenneté, bon, elle va être finalement annulée, en tout cas impensée par les hommes militants de cette révolution. Et puis finalement, c'est le Code civil de Napoléon 1804 qui va venir l'affirmer clairement. Les femmes ont une incapacité civile au regard de ce nouveau code-là, qui va être réformé en 1938. Alors, je vais donner quelques dates comme ça pour qu'on ait une vague idée, parce que on va pas pouvoir s'étendre sur tout. Mais donc, il y a cette réforme de 1938 qui supprime donc l'incapacité civile de la femme mariée. En 44, ça donne donc lieu au droit de vote pour les femmes. En 1966, c'est la gestion des liens propres et l'exercice d'une activité professionnelle sans le consentement du mari qui est autorisé. En 75, l'IVG. Plus récemment, la PMA. Pour toutes, est-ce que la mise en place de ces lois qui semblent finalement très proches de nous dit quelque chose justement sur ces droits des femmes dans notre pays, sur la manière dont on considère les droits des femmes dans notre pays?
Vaste question aussi. Là, vous avez pris certains droits. Vous auriez pu en citer d'autres nous faisaient remonter quand même au 19e siècle. Mais c'est vrai que la France a un retard par rapport à d'autres pays comparables, un retard pour les droits civils et les droits politiques des femmes, qui n'étaient pas forcément liés d'ailleurs. La suppression de l'incapacité de la femme mariée n'est pas forcément liée à l'obtention des droits politiques. Donc, il y a tout un débat pour savoir s'il y a plus d'antiféminisme en France qu'ailleurs, les raisons de cet antiféminisme parfois paradoxal, parce qu'on peut le trouver à gauche, disons dans le camp du progrès. La France, pays des droits de l'homme, qui s'est montré un pays pionnier en 1848 en mettant en place le suffrage universel pour les hommes, n'a pas été un pays pionnier pour les droits des femmes.
On va revenir à cette question des antiféminismes que vous avez largement étudié, mais... Moi, j'aimerais qu'on fasse un petit arrêt sur maintenant, parce que l'histoire aussi, ça nous permet de réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui. Que peut-on dire en 2022 sur l'application de ces lois et de ces droits dans notre pays? Est-ce qu'il y a des différences de traitement? Est-ce que c'est appliqué partout, pareil pour tout le monde dans ce pays?
Mais entre le droit et l'application du droit ou l'accès au droit, il y a souvent un écart, et ça on le constate aujourd'hui, mais on le constate aussi dans le passé. C'est pour ça que faire une histoire des femmes qui serait fondée uniquement sur les dates d'obtention des droits fausse un peu les choses. Voilà ce que j'ai envie de vous dire sans avoir le temps de rentrer dans le détail. Hein, mais bon, par exemple, c'est pour ça qu'on manifeste aussi le 8 mars. Hein, c'est parce qu'on a atteint à peu près l'égalité des droits. Et pourtant, dans la réalité, l'égalité n'est pas là.
Oui, c'est ça. C'est un argument d'ailleurs qui est souvent utilisé par les personnes qu'on peut qualifier d'antiféministes. A priori, sur le papier, l'égalité en droit serait là, mais dans le quotidien, on constate qu'on en est finalement assez loin.
Ben, il ne faut pas leur laisser cet argument. Il faut reconnaître que les luttes féministes du passé ont permis aux femmes d'acquérir des droits. Hein, c'est important de reconnaître déjà ce qui a été accompli et puis ensuite de mesurer ce qui reste à accomplir pour arriver à une véritable égalité, mais qui est repensée aujourd'hui dans d'autres termes que dans le passé. Hein, il y a des thèmes nouveaux qui émergent grâce au féminisme contemporain.
Et donc, à travers le prisme historique, vous avez aussi, Christine Barre, identifié et étudié les mouvements antiféministes. Quel rôle jouent-ils et qu'ont-ils fait aux droits des femmes en France?
Ils ont joué un rôle de frein, ça c'est évident, d'obstruction, notamment parlementaire. Alors qu'il y avait des débats, par exemple sur le droit de vote, ça a duré très très longtemps en France, il y avait une obstruction des parlementaires, alors que l'opinion publique était plutôt favorable. Il y a aussi, d'une certaine manière, une forme d'anticipation hein, des antiféministes qui s'opposent à des droits que parfois les féministes n'ont pas encore envisagé de demander. L'antiféminisme, c'est un mouvement d'opposition à l'émancipation des femmes, quel que soit le domaine de l'émancipation. Donc, on les a vus agir. Quand je parle d'anticipation, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est l'interdiction de porter le pantalon comme symbole politique pendant la Révolution, alors que les femmes révolutionnaires ne portent pas le pantalon. Voilà, il y a des formes d'anticipation de ce type-là.
Et ça, c'est resté très très longtemps justement dans la loi. Ça a été abrogé au début des années 2000, si je ne me trompe pas, ou 2010 même.
Alors, c'est une ordonnance de police hein, qui, à Paris, interdit aux femmes de s'habiller en homme. Et il a fallu attendre 2013 pour que le texte soit considéré comme une archive. Pas vraiment aboli.
Alors, je suis contente que vous employiez ce terme d'archive parce que c'est justement la prochaine thématique que je voulais aborder avec vous, Christine Barre. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association des archives du féminisme. Quel lien peut-on tisser entre la mise en place d'archives et les droits des femmes? Quel rôle jouent les archives pour vous dans les luttes pour les droits des femmes?
Alors, ce sont des traces essentielles. Hein, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une histoire et aussi une mémoire et des actions mémorielles. Donc, non seulement ça nous permet de faire une histoire à l'université, d'écrire des livres, des articles, etc., mais aussi de demander la parité pour les noms de rue, d'avoir des belles figures de femmes à proposer. Prendre appui sur cette mémoire et sur cette histoire mieux comprendre les enjeux, les rapports de force, c'est très important et c'est aussi une simple question de justice dans la mémoire et dans les commémorations, dans toutes les actions publiques qu'on fait en utilisant la mémoire, hein, en valorisant la mémoire. Je pense on peut penser au Panthéon ou plus simplement au nom de rue. Là, il y a une très très forte inégalité aussi dans cette sphère de la mémoire collective, de la mémoire publique. Bon, donc il y a la mémoire, il y a la possibilité d'écrire l'histoire, préserver des sources pour que plus jamais on ne se retrouve dans la situation que moi j'ai connue quand j'étais étudiante. Et quand on affirmait, quand les historiens affirmaient que il n'y avait pas eu de féminisme en France. Hein, quand j'ai commencé en histoire, c'était ça le discours, on n'en parlait pas du tout, mais pourquoi on n'en parlait pas? Parce qu'on disait ça n'existe pas. Alors là, on a des archives qui prouvent le contraire. Donc c'est très très important. Parce qu'une des tactiques des antiféministes a toujours été de minimiser, voire d'invisibiliser les luttes féministes. Donc c'est très important de réagir à ça et de dire non, ça a existé.
Alors Michèle Perrot, qui a été votre directrice de thèse sur l'histoire des féminismes en France entre 1914 et 1940, a également préfacé le dernier ouvrage de Titu Lecoq, Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Donc ça rejoint le travail de Titu Lecoq, ce que vous disiez à l'instant et puisque vous faites avec les archives du féminisme. Dans cette idée-là, le droit à cette place dans l'histoire va-t-il selon vous être un enjeu des luttes féministes du XXIe siècle?
Disons que la lutte, elle a commencé il y a une cinquantaine d'années, parce que l'histoire des femmes avec Michèle Perrot et d'autres historiennes de sa génération a commencé dans les années 1970. Donc on est véritablement 50 ans après. Et beaucoup plus nombreuses, pas très nombreux, ce sont beaucoup plus des femmes que des hommes qui s'intéressent à cette histoire des femmes et du genre. Donc c'est un secteur de la recherche très dynamique et en même temps, on voit bien que dans les manuels scolaires, au collège, au lycée, il est très très peu de questions de cette histoire et que le ministère de l'Éducation nationale en ce moment ne soutient absolument pas, n'a aucune ouverture à l'égard de cette préoccupation que nous avons, que l'histoire soit mixte, que les femmes y aient une place, le genre y ait une place. Et ça, c'est vraiment très très difficile à faire évoluer. C'est aussi difficile d'être lu par des historiens qui travaillent sur des sujets assez différents et qui voient l'histoire des femmes comme un secteur un petit peu à part, très militant, et qui voient ça avec un petit peu de dédain parfois. Donc le combat continue, ça a été un combat du XXe siècle et ça reste un combat du XXIe siècle. Mais je trouve que ça avance quand même un peu, il y a en tout cas dans l'opinion, il y a un public, il y a un intérêt, on voit bien les réactions des étudiantes et des étudiants aussi à ce type de sujet, il y a un intérêt sincère et une découverte qui est souvent enthousiasmante et parfois bouleversante. Donc ça touche. C'est ça qui est si particulier, c'est que l'histoire des femmes peut nous toucher d'une manière vraiment existentielle, vraiment très profonde. C'est pas un savoir comme un autre. Ça nous interroge dans notre propre vie. Et c'est pour ça que c'est si fort.
Merci beaucoup, Christine Barre, pour cette petite touche d'optimisme final. Merci beaucoup.
De rien.
Et c'est ainsi que se clôture le 9e épisode de Margot Guette. Aujourd'hui, aux manettes, côté technique. Et comme d'habitude, finalement, c'était le fabuleux Arnaud Mora. Je vous donne un dernier chiffre. Les 622 féminicides arrivés en un mandat qui avait pour grande cause du quinquennat la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci pour votre écoute, très chères auditeurices. On se retrouve dans 2 semaines du côté de la plateforme sociale du Marsan. Si tout se passe bien, d'ici là, prenez soin de vous. Bisous.